Le quart d'heure corésien,
l'émission d'information hebdomadaire
de Bram FM et RGB.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le quart d'heure corésien, le magazine hebdomadaire d'information concocté par Bram FM et RGB. Bonjour Thomas Vandenrich.
Bonjour Olivier Serac.
Cette semaine, nous vous parlons de chasse, une pratique de plus en plus décriée ces dernières années. Entre accidents de chasse et des clichés qui ne décollent pas du dos des chasseurs, eh bien nous allons essayer de comprendre comment cette pratique évolue, d'autant plus que le gouvernement a dévoilé il y a quelques semaines un nouveau plan chasse. Nous essaierons de comprendre comment cohabitent randonneurs, amateurs d'oiseaux et chasseurs. Et puis c'est l'autre actualité de cette semaine, je parle bien sûr de la réforme des retraites, réforme qui a mobilisé beaucoup de monde ce jeudi en Corrèze. Nous vous emmènerons au cœur du cortège tulliste à la rencontre d'un homme qui, pour la première fois de sa vie, a fait grève et vous comprendrez pourquoi. Le quart d'heure corrézien, épisode 6, vous avez le menu, c'est parti. Le gouvernement a annoncé un nouveau plan chasse, un plan qui vise à renforcer encore un peu plus la sécurité. Un volet pratique pourrait venir renforcer la formation obligatoire et renouveler tous les 10 ans aux chasseurs. Le gouvernement souhaite également mettre en place un délit d'alcoolémie ou encore une application sur smartphone grâce à laquelle les promeneurs pourront localiser les zones de battue. Des mesures, Thomas Vandenrich, qui font débat.
Les avis divergent sur les annonces du gouvernement. Pour Jérôme Roger, responsable de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO pour le Limousin, les mesures ne sont pas encore suffisantes, notamment en termes de formation.
Le permis de conduire, on ne vous dit pas juste qu'il faut regarder une série de vidéos pour apprendre le code de la route et puis après c'est bon, vous pouvez conduire. On vous fait quand même passer un examen du code. Et si vous n'obtenez pas la note suffisante, vous n'avez pas le code. Et bien pour la chasse, notamment certaines pratiques au niveau sécurité, ça serait peut-être bien qu'il y ait ce genre d'examen, quoi.
Le défenseur des oiseaux ne comprend pas non plus que le gouvernement ne mette pas en place une journée sans chasse dans la semaine, comme par exemple le dimanche.
Pourquoi il y aurait une légitimité supérieure pour une minorité? Parce que si on comptait réellement tous les gens qui font de la randonnée, qui font du VTT, qui font des balades familiales, qui font de l'observation de la nature, qui font de la cueillette de champignons, et ces gens-là sont bien plus nombreux que les chasseurs. Donc pourquoi il y aurait une légitimité à ce que le dimanche soit quasiment exclusivement réservé à la chasse et pour les autres activités, sous risque de peut-être vous prendre une balle, et pas, attendez, c'est les autres qui ont la priorité, et puis effectivement, on réserve des jours ou un temps, le dimanche matin, à votre activité.
Mais le discours est tout autre du côté de Jacques Pérus, président de l'association de randonnée Tulle Sentier. L'annonce de la mise en place de l'application permet de rassurer les usagers de la nature.
Oh ben pour moi, c'est excellent. C'est une information supplémentaire qui nous permet, qui nous permettra de marcher en toute sécurité, ça c'est sûr.
Il souhaite avant tout que la communication entre les chasseurs et les autres usagers, comme les randonneurs, soit apaisée, même s'il comprend l'appréhension des promeneurs lorsque des battues sont en cours.
Les gens ils disent « Ah, mais on est dans le coin, on va prendre une balle perdue. » Enfin, bon, c'est forcément, c'est arrivé, donc pourquoi pas à nous. Mais je n'ai pas eu de retour de personnes qui organisaient des randonnées et qui m'auraient dit on est allé dans tel ou tel coin, on était mal reçu par les chasseurs, etc., etc. Non, c'est pas moi, j'ai pas eu ça, non, pas du tout.
Ils arrivent tout de même à se mettre d'accord sur un point. Le délit d'alcoolémie souhaité par le gouvernement est une mesure qui va de soi selon eux.
D'accord Thomas, on comprend bien les différentes positions des randonneurs et des défenseurs de la nature, mais qu'en est-il des chasseurs eux-mêmes ?
Eh bien déjà, en croire les représentants de la Fédération départementale de chasse, pas sûr que ces mesures soient réellement applicables ou efficaces, surtout sur un département rural comme la Corrèze. C'est en tout cas l'avis de Robert Madupuis, président de la Fédération.
Ce qui est sûr, c'est que la formation ne peut pas être contre, bien au contraire. D'ailleurs, on n'a pas attendu ces nouvelles mesures gouvernementales pour faire la formation en Corrèze. La question qui gêne un petit peu, c'est que j'ai vu qu'il pourrait y avoir une formation pratique. Donc là, ça va demander du temps et ça va demander de l'argent. Et donc je dis qui le fait, qui le paye.
Et pour David Murat, directeur de la Fédération de chasse, la mise en place de l'application souhaitée par le gouvernement est une fausse bonne idée.
Les chasses en battue devraient apparemment être déclarées sur cette application. Pas les chasses individuelles, si bien que dans la tête des non-chasseurs, toutes les zones qui n'apparaîtront pas comme des zones de chasse en battue, ce sera des zones où il n'y aura aucun chasseur, alors qu'en fait, potentiellement, il pourra y avoir des chasseurs individuels. Et l'inverse est vrai, c'est qu'à terme, au bout de quelques temps d'utilisation, le risque aussi, c'est d'avoir certaines équipes de chasse qui vont déclarer les zones où ils vont chasser en battue. et où ils ne vont pas comprendre que des randonneurs ou des vététistes vont arriver et traverser ces zones si elle a été déclarée au préalable comme une zone de chasse en battue. Donc le risque sur un département comme la Corrèze, mais ça c'est mon analyse, c'est qu'on risque d'amener des problèmes entre les différents usagers qu'actuellement on ne connaît pas.
Mais pour comprendre un peu mieux les mesures de sécurité déjà mises en place, Thomas Van Hendrich, vous avez suivi les chasseurs lors d'une battue. Concrètement, comment ça se passe en termes de sécurité ?
Alors pour commencer, à chaque battue, le responsable de cette battue rappelle les consignes de sécurité avant de débuter. Il y a la fameuse règle des 30 degrés, la règle d'or pour éviter tout accident. On ne tire pas en dehors de cet angle et pour le délimiter, le chasseur fait 5 pas vers son voisin, puis avance de 3 pas en avant pour y planter une tige. Il fait ça à sa gauche, puis à sa droite. Ensuite, il faut toujours garder son gilet fluo orange pour être vu de tous. Et puis, bien évidemment, toujours vérifier qu'on a bien identifié sa cible avant de tirer.
Mais alors, dans ce cas, comment se fait-il qu'il y ait encore autant d'accidents ?
Eh bien, tout simplement parce que certains ne respectent pas ces consignes. Et puis aussi car il y a des erreurs de manipulation des armes ou des situations difficiles à prévoir. Mais pour éviter tout accident, les formations sont indispensables. Comme nous l'explique Momo, c'est un chasseur que j'ai pu rencontrer lors de cette battue à Saint-Mexant, à côté de Tulle.
Les formations, ça fait que du bien à tout le monde. Et ça, c'est primordial pour nous. Bon, après, bien sûr, le risque zéro n'arrivera jamais, malheureusement. Mais il faut l'éviter. Il faut éviter au maximum qu'on ne prenne aucun risque. On ne chasse pas beaucoup le sanglier, nous on chasse à plat. La balle, c'est encore plus dangereux. Voilà, il faut faire attention aux ricochets et tout. Et les ricochets, malheureusement, ça, les gens, ils peuvent rien. Quoi. Après, il faut faire attention à tout.
Et pour éviter des accidents, est-ce qu'il ne faudrait pas partager tout simplement le territoire avec les autres usagers ?
Eh bien si, et d'ailleurs c'est déjà le cas, puisque les chasseurs n'ont pas le droit de chasser sur tous les terrains. Exemple encore à Saint-Mexant.
C'est des terrains qui sont signés par les propriétaires. Si ce n'est pas signé, on n'a pas le droit de les chasser. Donc là, nous, on chasse sur 1200 hectares et la commune fait 3000 hectares.
Et vous allez me demander, Olivier, je vous vois venir, comment ils font les chasseurs pour éviter les accidents de la route causés par les chiens de chasse ou le gibier ? Eh bien là encore, ils ont pensé à tout, les chasseurs. Chaque chien est tracé grâce à un collier GPS, ce qui fait qu'ils sont plus faciles à repérer. Et puis surtout, il y a toujours une ou plusieurs personnes qui sont là pour récupérer les chiens qui s'approchent trop des routes. Mais mine de rien, ça reste un animal et parfois, il en fait qu'à sa tête. Et les gibiers ne sont pas dressés, eux. Donc c'est pour ça, si vous voyez des panneaux au bord des routes qui vous signalent une battue en cours, eh bien, ralentissez, tout simplement.
Je comprends, d'accord. Donc la sécurité, c'est primordial dans le milieu de la chasse. Ça, les chasseurs l'ont bien compris, on dirait. Mais malgré tout ce qu'ils mettent en place pour éviter les accidents, les chasseurs sont quand même pointés du doigt par leurs opposants. D'un point de vue humain, comment ils le vivent, ça, les chasseurs ?
Eh bien, plutôt mal. Personne ne s'en cache à la société de chasse de Saint-Mexant. Momo me dit même sur un ton dépité qu'il n'a plus grand espoir pour que leur image change.
Je sais pas, on est tellement mal vu que je sais pas du tout, honnêtement. À cause de deux, trois imbéciles, on va dire, en parlant poliment, qui font n'importe quoi et qui donnent une mauvaise image. Et tout le monde a parti derrière. J'ai plus beaucoup d'espoir là-dessus.
Un sentiment renforcé, d'autant plus que les chasseurs se sentent pris en étau. D'un côté, par les agriculteurs, ils leur mettent la pression pour chasser plus de grands gibiers. Ce sont eux, les sangliers, les chevreuils et les cerfs qui abîment leurs récoltes. Et ce sont les chasseurs qui indemnisent les agriculteurs. Et puis de l'autre côté, de nombreux anti-chasses souhaitent tout bonnement interdire la chasse. Mais comme le dit Momo...
Je pense qu'il faut que trouver un terrain d'entente et surtout de la communication des deux parties.
Très bien Thomas, mais malgré tout ce que peuvent dire les chasseurs, la chasse reste quand même une pratique dangereuse, non ?
Alors oui, certes, mais de moins en moins. Et pour Gilles Gorcet, chef de service départemental de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, les formations mises en place depuis une vingtaine d'années jouent leur rôle.
Le nombre d'accidents, et notamment des accidents mortels, a chuté de façon considérable. Il faut savoir que dans les années 2000, nous avions à peu près 200 accidents par an et une trentaine de morts. Aujourd'hui, on est à 90, je crois, l'année dernière, accidents pour 8 morts. C'est encore beaucoup trop, bien entendu. mais on voit bien que les efforts ont été couronnés de succès malgré tout.
Et pour compléter ces chiffres, depuis 2010, en Corrèze, l'OFB a recensé 14 accidents corporels imputables à la chasse, dont 7 blessés graves et 6 légers. Parmi les blessés, 2 des personnes étaient extérieures à la chasse. Et enfin, sur ces 14 accidents, 2 ont été mortels. Le dernier remonte à 2016, c'était sur la commune de Saint-Martin-la-Méanne, à l'est d'Argentat. Et finalement, pour Gilles Gorcet, le débat autour de la chasse ne se réglera pas politiquement, mais plutôt autour d'une table.
Il faudrait déjà commencer par discuter et éviter de se bloquer sur des positions dogmatiques. C'est par là qu'on avancera. Tant qu'on ne discutera pas à l'échelon local ou à l'échelon d'un département, tant que les gens ne se mettront pas autour d'une table pour discuter et trouver des consensus, c'est-à-dire des accords qui conviendront au maximum de gens, tant qu'on ne fera pas ça, on n'y arrivera pas. Or là, aujourd'hui, on a parfois l'impression, quand on écoute les communicants sur les chaînes de télé ou de radio, qu'on a affaire plus à des positions un peu tranchées, un peu dogmatiques, qu'à des volontés d'évolution. Mais il est clair que, pour moi, la chasse a sa place au même titre que d'autres activités, ne serait-ce que pour la régulation des populations de grands animaux. Sur le département de la Corrèze, actuellement, je crois qu'il y a environ 10 000 chevreuils de prélevés par an, 2 200 cerfs et biches, et alors, selon les années, entre 5 et 6 000 sangliers. Il est évident que s'il n'y avait pas de prélèvement, ça serait une catastrophe en termes de dégâts à l'agriculture, de dégâts forestiers et de collisions automobiles. Il y a chaque année des morts avec les collisions du gibier. Donc voilà, la chasse a sa place à ce niveau-là. Peut-être ensuite faut-il qu'elle s'organise un petit peu mieux ou autrement en tout cas.
Eh bien merci Thomas Van den Driche de nous avoir éclairé un petit peu plus sur ce sujet relativement complexe. Reste maintenant à savoir comment le plan chasse du gouvernement sera mis en place dans le milieu cynégétique. Le projet de loi n'est pour l'instant pas encore en débat au Parlement.
Vous écoutez le quart d'heure corrézien sur Bram FM et RGB.
Et il y en a d'autres qui souhaiteraient plus de dialogue. Ce sont les manifestants qui se sont mobilisés jeudi matin. Ils étaient près d'1,5 million un peu partout en France, dont 5 000 à Tulle. Une mobilisation contre la réforme des retraites donc, une réforme proposée par le gouvernement et qui verrait d'une part un rallongement progressif de la durée de cotisation et d'autre part donc un recul progressif de l'âge de départ à la retraite. D'ici 2030, il pourrait passer à 64 ans. Et ça, Olivier Sérac, les manifestants n'en veulent pas.
Et ils étaient nombreux dans les rues de Tulle, Brive et Ussel ce jeudi 19 janvier. Près de 5 000 personnes se sont réunies à Tulle le matin, du jamais vu depuis 10 ans. Il faut dire que l'union intersyndicale permet une très forte mobilisation cette année. Et parmi les manifestants, il y a Nelson. Il craint ce retard de l'âge de départ à la retraite parce que Nelson est plâtrier peintre. Il travaille depuis l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, il en a 38 et déjà...
Pas mal de problèmes de santé par rapport au dos, aux genoux et tout. Et je suis encore jeune, et je ne me vois pas travailler jusqu'à là parce que je suis dans le bâtiment. Donc ça va être très compliqué, je pense, pour certains.
Et pour dire son inquiétude, c'est que ce jeudi...
C'est la première fois vraiment que je manifeste. Et puis dans le privé, c'est comme tout, on faisait grève. Après, bien sûr, on était mal vu et c'était très, très compliqué.
Aujourd'hui, Nelson a trouvé une place dans le secteur public. Il a donc pu poser une journée de grève, une journée pour laquelle son salaire ne lui sera pas versé. Mais l'important est ailleurs.
C'est une journée non payée, mais où c'est qu'on va pouvoir peut-être gagner des années de travail. Donc je pense que c'est, même si on perd 70 euros aujourd'hui, on peut y gagner derrière.
Pour lui, ce projet de réforme tel qu'il est présenté par le gouvernement risque de peser lourd pour sa santé.
Je vois déjà à mon âge, j'ai déjà du mal à faire certaines choses. Et puis tout le poids quoi, qui suit derrière. Pour me baisser, parce que je suis plâtrier peintre, je fais du sol aussi. Et par exemple, tout ce qui est sol, pour se baisser, pour attraper les grosses charges, c'est compliqué.
Certes, il l'admet, les matériels d'aujourd'hui lui permettent d'améliorer ses conditions de travail. Toutefois, ne lui dites surtout pas que ces matériels facilitent tout dans son travail.
On est obligé de se mettre en situation sur le chantier qu'on a. Et il y a des fois, il y a du matériel qu'on ne peut pas utiliser. Maintenant, ceux qui disent ça, moi, je voudrais qu'ils viennent me remplacer et qu'on en discute après, une fois que ces gens-là auront essayé.
Concrètement, il ne se voit pas poursuivre son travail comme il le fait aujourd'hui jusqu'à 64 ans.
Si je continue à travailler comme je fais maintenant, non, je ne me vois pas du tout. En toute honnêteté, je ne sais pas. Alors soit je redemanderai un reclassement, parce que j'ai de la chance, on a de la chance en tant que fonctionnaire, de demander des reclassements. Ou... Après, on fera comme beaucoup, malheureusement, on sera obligé, si la santé ne suit pas, de se mettre en arrêt maladie et... On n'aura pas le choix.
Reste que voir autant de monde mobilisé dans les rues de Tulle, eh bien ça réchauffe le cœur de ce néo-manifestant.
Tout le monde se sent impacté. Après, ça touche tout le monde. On parle de santé des gens quand même. Pour cette manifestation-là, tout le monde est soudé et tout le monde se sent concerné.
Désormais, il espère que le gouvernement entende ses craintes. Et s'il doit revenir dans la rue, Nelson, comme d'autres salariés du public et du privé, le fera.
De son côté, jeudi soir, le président de la République défendait, je cite, « une réforme juste et responsable ». Réforme qui sera menée avec détermination, assurait Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Olivier Serac.
Merci à vous, Thomas Vandendrich.
C'est la fin de ce 6e épisode du quart d'heure corrézien. Épisode à retrouver bien sûr sur le site rgb-radio.net et bramfm.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.
Vous venez d'entendre le quart d'heure corrézien à réécouter sur bramfm.com et rgb-radio.net.